Maintenant, avec le recul du temps et le retrait du milieu très actif de l'Église-institution, j'ai pu, par deux sources, d'abord par mes propres observations personnelles, mais aussi par les confidences des autres. Après ma démission comme secrétaire général de l'Épiscopat, j'ai pu recueillir encore toute une série de points de mérite et de points de démérite. En fait, de points de mérite, ayant plus de temps à ma disposition, j'ai pu inventorier une multitude d'expériences qui nous échappent souvent au niveau de l'autorité ecclésiastique. De ces expériences qui ne font pas tellement de tapage, qui ne font pas la manchette, qui ne sont peut-être pas structurées, mais qui sont des manifestations fantastiques du renouveau dans l'Église. J'ai pu évaluer à tête reposée et avec un esprit beaucoup plus détaché ce qui se passe en Église. Regardez là l'Église structurée et hiérarchique, en observateur indépendant, qui sait apprécier, mais qui savait déceler également certaines choses qu'on ne saisit pas toujours de l'intérieur. J'ai pu cerner l'essentiel et j'ai pu voir certaines choses qui me semble regrettable au niveau des diverses fonctions que j'avais exercées durant les 28 années précédentes. Des choses qui m'ont même ont pu me prendre par surprise, tellement je n'avais aucune idée ou de leur non-opportunité, ou de leur complexité, ou de leur perception par les fidèles, les prêtres ou les religieux, religieuses dans l'Église. Mais au cours des 7-8 dernières années, j'ai pu constater un certain nombre de points de démérite. Et la première de ces constatations, c'est ceci, que notre Église institution, donc structurée et hiérarchique, est bien loin de rejoindre la majorité des catholiques, même croyants et pratiquants. C'est toujours délicat de risquer un chiffre, mais j'en risque un. Dans mon évaluation personnelle, il y a un bon 2/3 des catholiques croyants, pratiquants, fervents, ne sont pratiquement pas atteints par la structure et la hiérarchie de l'Église-institution, qui n'a aucun impact sur eux. Et dans ce 2/3, j'inclus des prêtres, des supérieurs de communauté, des religieux, des religieuses, qui ne se préoccupent pas, ne sont pas au courant, ne sont même pas intéressés. Je dis souvent en blaguant que si j'avais chargé des honoraires à tous ceux et à toutes celles à qui j'ai dû expliquer qu'est-ce que c'est que des évêques, qu'est-ce que c'est qu'un secrétariat d'épiscopat, qu'est-ce que c'est qu'un évêché, un archevêché, si j'avais chargé des honoraires pour mes relations publiques, je serais multimillionnaire depuis 7-8 ans. J'ai constaté également beaucoup de manifestations de foi, d'espérance et de charité dans le peuple de Dieu. Et souvent des manifestations beaucoup plus grandes autour de l'institution ou de la structure qu'à l'intérieur. Je vous le confie bien simplement, j'ai plus appris sur Dieu le Père aimant, Jésus vraiment vivant et l'Esprit Saint agissant que je ne l'avais appris pendant mes 28 premières années en fonction dans l'Église. J'ai constaté également, et ça m'a été pénible, de voir les dommages de notre intellectualisme exagéré parfois, notre rationalisme, Vous savez, je reviendrai d'ailleurs là-dessus un peu plus tard, à ne pas distinguer ce qui est de la naïveté et de la simplicité chrétienne. On a tellement souci de ne pas passer pour naïf qu'on rate souvent l'occasion de grandir comme des enfants de Dieu. Et on perd de vue la grandeur des vertus théologales puis l'importance de l'humilité. Au lieu d'arriver à cette simplicité chrétienne, une simplicité élevée, surnaturelle, qui conduit à la contemplation, on s'enlise, on s'embourbe dans une complexité prétendument savante. Et puis on va de connaissance en connaissance, et notre vie spirituelle décline, se compromet, se bloque dans des doutes en série. J'ai constaté aussi, à mon grand regret, que le leadership spirituel dans l'Église est nettement insuffisant. Je suis pour que nos chefs parlent des questions économiques, sociales, des droits humains, des libertés, des conflits qui se présentent. Mais je trouve quand même disproportionné le pourcentage de ces interventions par rapport aux interventions nettement spirituelles. Et c'est pour ça que je dis le leadership spirituel est nettement insuffisant. Je trouve que parfois, nos animateurs, nos prédicateurs nous présentent ce que j'appelle un évangile à la pige. On prend des positions humaines et puis on met quelques textes bibliques là-dessus, un peu comme on met du persil sur un plat bien apprêté pour le décorer. Mais l'intervention, la motivation, la déclaration est de saveur souvent profane. J'ai constaté, et c'était une découverte pour moi, même si je le soupçonnais, que notre appareil bureaucratique en Église souffre d'embonpoint, d'édème. Que le sens et la vie communautaire en Église-institution est une denrée rare. Se peut que les gens, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'Église-institution appartiennent à des petits groupes ici et là, même vivent en communauté, tout cela. Mais on ne vit pas communautairement dans l'exercice de nos fonctions d'Église institutionnelle. J'ai constaté également que le cléricalisme, ou je devrais dire le néo-cléricalisme, n'est pas mort. Si jadis on décidait puis on imposait aux gens, aujourd'hui on a toute une série de clercs, de prêtres qui affirment leur autoritarisme sous forme de dénonciation. Ils sèment le doute, ils font douter des vérités, ils font douter des prises de position, que ce soit des évêques, du pape et tout ça. Ils sèment le doute et c'est une façon, peut-être inconsciente, je l'espère, de se faire valoir, de s'affirmer. Et on se trouve aussi devant le cléricalisme des laïcs ou l'anticléricalisme des clercs, des prêtres qui s'acharnent à détruire le clergé. J'ai constaté également, et vous serez d'accord avec moi, que même si l'autoritarisme en Église est peut-être mieux enveloppé et a diminué, heureusement, l'exercice de l'autorité n'est pas encore, à mon goût, représentatif de la bonté de Dieu le Père. L'autorité qui vient du Père doit ressembler au Père et rassembler autour du Père. J'ai constaté qu'il y avait une disproportion entre le renouveau spirituel vécu et constaté hors de l'institution, dans cette multitude de mouvements de renouveau spirituel qui ont poussé partout en Église depuis Vatican II. Une disproportion entre cette force fantastique du renouveau, je dirais hors les cadres et les structures institutionnelles, par rapport au renouveau plus ou moins que l'on ressent dans le fonctionnel quotidien de l'Église, structuré et hiérarchique. Du moins, collectivement et ouvertement. Encore une fois, là, je fais cette nuance. Qui serais-je d'ailleurs pour juger que tel prêtre, tel évêque, tel supérieur, tel animateur, tel responsable d'œuvre est plus ou moins chrétien? Mais ce dont je parle ici, c'est la manifestation que l'on a dans nos secrétariats d'épiscopat, dans nos curies diocésaines, dans nos mouvements et dans nos œuvres. Et souvent, parce qu'on n'y pense pas, chacun mène sa petite vie spirituelle en circuit fermé avant ou après les heures de travail, et pour, sous prétexte de se mettre à l'aise, de ne pas s'imposer, on s'abstient d'afficher son renouveau. Et les gens vont chacun de leur côté, dans leur petit syndicat de bien-portants spirituels, mais au travail, en fonction, on ne laisse rien paraître. Alors, c'est quand même paradoxal de penser qu'il y a un renouveau individuel fantastique depuis Vatican II et un renouveau spirituel institutionnel seulement partiel. Mes chers amis, quand je parle de renouveau fantastique, je n'ai pas besoin de développer ça longtemps, mais vous le connaissez comme moi, ce renouveau dans la relation avec le Seigneur, cette relation vivante avec Jésus, cette facilité que les gens ont de plus en plus à se sentir fils et filles du Père, à prendre conscience de l'Esprit-Saint, l'attrait tout nouveau et tout fervent qu'il y a depuis 10-20 ans pour la prière, le goût, l'étude, le recours à la parole de Dieu, le fait que Marie, Mère, a retrouvé sa place dans nos dévotions, qu'il y a plus que jamais un goût pour l'amour fraternel, l'Eucharistie, le pardon, les charismes, le partage, l'amour de l'Église, tout ça. C'est excellent. Et je pourrais faire tout un exposé sur les bons coups depuis Vatican II. Ils sont innombrables. Je les souligne là rapidement. Je pourrais en parler encore pendant une heure ou deux. Mais ce que je déplore, c'est que tout cela n'a pas encore imprégné l'opérationnel, le fonctionnel, le structurel, l'institutionnel de l'Église, autant et partout où ça devrait. En somme, selon moi, on est encore trop sur le plan de l'Église institutionnelle, dans l'Église de l'avant-concile. On a trouvé des nouveaux thèmes d'études, des nouveaux thèmes d'action, on a fait des nouvelles structures, mais pas suffisamment encore, à mon point de vue, un nouvel esprit, de vraies nouvelles méthodes, un vrai nouveau leadership spirituel. Pourquoi? C'est que le Seigneur n'a pas eu encore son laissez-passer dans certains coins de notre Église institutionnelle. Il a rejoint des individus, il a rejoint des groupes en dehors des structures, mais il n'a pas encore réussi à nous gagner, à nous mettre à sa main, si je peux ainsi dire. Même parmi les croyants pratiquants qui sont rejoints par l'Église institutionnelle. Beaucoup trop, à mon point de vue, ne sont rejoints qu'humainement et intellectuellement, comme le sont ou le seraient les membres d'une bonne organisation philanthropique, humanitaire. Mais encore trop peu voient leur âme vraiment convertie, sanctifiée par les initiatives de l'Église institutionnelle officielle. Moi, je suis toujours surpris, et vous pouvez faire le test vous-même. Quand je rencontre des gens qui me disent « Ah, leur vie est transformée, ils se sentent renouvelés, ils se sentent plongés dans le Seigneur, puis tout ça », puis je leur demande « Permettez-vous d'être indiscret ? Qu'est-ce qui a déclenché ça chez vous ? Je sais bien que c'est la grâce du Seigneur, mais à l'occasion de quoi ? Est-ce que c'est un texte des évêques ? Est-ce que c'est une homélie de votre curé? Est-ce que c'est une rencontre avec le chancelier du diocèse? Est-ce que c'est une prédication? Est-ce que c'est la priorité pastorale de votre diocèse qui vous a touché en profondeur? » Mon silence vous donne une idée de la proportion des réponses que je reçois. Les gens vont me dire, « Ben non, moi j'ai été rejoint à l'intérieur de tel groupe de prière, j'ai été rejoint dans telle initiative post-conciliaire, et tout ça. » Mais très, très peu sont rejoints par l'un ou l'autre d'entre nous. Je ne veux pas vous décourager, mais faisons face à notre situation. C'est comme ça que les choses se passent. Et ça doit nous amener à nous interroger, nous qui œuvrons dans l'Église structurée ou hiérarchique, on aura beau fabriquer des déclarations, des discours, organiser des gestes et des œuvres, mais si ça convertit pas plus que ça, il y a matière à une sérieuse interrogation. L'Église ne peut pas se contenter, comme Toyota, de faire des autos, puis de General Electric, de faire des poêles ou des frigidaires, aussi beaux puis aussi bons que possible. Et c'est souvent ce qui arrive. Les gens parlent de nos déclarations, ils s'épatent, ils en discutent, ils en achètent. On sait, là, ce qui vient de se produire avec la déclaration des évêques du Canada à propos de la vie économique. Mais sont-ils plus près du Seigneur pour autant? Sont-ils rejoints en profondeur? Et ça m'amène, en terminant cette section A sur mes propres constatations, à souligner ce qui me paraît la plus sérieuse des lacunes, c'est qu'il y a une disproportion malheureuse entre les investissements que nous faisons pour améliorer la qualité de nos activités, de nos services, de nos missions d'Église par rapport aux investissements que nous faisons pour améliorer la qualité d'être spirituel des hommes et des femmes qui œuvrent en Église. Nos adversaires, eux autres, ne font pas comme nous. Nos adversaires, eux autres, ils ne laissent pas leurs hommes et femmes du mouvement se ressourcer plus ou moins, ici ou là, chacun de son bord, quand ils veulent, comme ils veulent. Le monde des affaires, puis le monde professionnel non plus. Nous autres, en Église, on prend ça pour acquis, sous prétexte de respecter la liberté. Et pourquoi nos adversaires ou les gens du monde des affaires puis professionnels ne le font pas? Pour deux raisons. D'abord, ils sont compétitifs. Nous autres, pas ou peu. Sous prétexte de démocratie puis de liberté, on laisse chacun valoir ce qu'il veut puis y voir par lui-même. Nos adversaires puis les gens des autres domaines de la société, ils sont non seulement compétitifs, ils sont corporatifs. Ils sentent leur appartenance à un ensemble. Ils savent que les sottises ou l'incompétence ou les prétentions ou les erreurs ou les manques de qualité des uns engagent les autres. Puis ils ne laissent pas dans leur compagnie, puis ils ne laissent pas dans leur mouvement quelqu'un qui ne fait pas l'affaire parce que ça les touche drôlement. Or, on devrait, nous autres aussi, avoir ce sens corporatif, nous apercevoir que quand il y a un prêtre qui est ignorant puis il reste dans son ignorance, ou quand un fidèle ou des fidèles sont exaltés, ou quand un prêtre ou des religieux religieux sont trop mondains, ou quand il y a un des nôtres qui se prend pour Dieu le Père, ben, ça m'implique moi aussi. Puis je suis victime. Ça abîme l'Église. Ça nous nuit. C'est de la très mauvaise liberté et démocratie que de laisser faire ça. Des fois, je pense à un paradoxe qui me fait réfléchir, parce que pendant des années, j'ai enseigné la doctrine sociale de l'Église. Puis on affirme, nous autres, dans l'Église, qu'il faut d'abord changer les humains. Il faut changer le cœur des humains. Si on veut, après ça, changer les structures. Nos adversaires, eux autres, en principe, ils affirment le contraire. Il faut d'abord changer les structures si on veut changer le monde. Les hommes, les humains. Et regardez en pratique qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est nos deux belles déclarations. On dit toujours que le christianisme, lui, veut changer l'homme pour changer le monde, puis les marxistes, ils veulent changer le monde pour changer l'homme. Ça, c'est nos deux belles théories. En pratique, regardez qu'est-ce qui se passe. Eux autres, en pratique, ils commencent par changer leurs hommes. Puis après ça, ils les envoient changer l'hôpital, changer la maison d'éducation. Puis nous autres, malgré notre belle déclaration, ben, on travaille plus fort sur nos changements de structure, de priorité, d'activité, de mission. Puis on néglige toute proportion gardée. Je ne veux pas passer à l'extrême d'un coup comme ça. Toute proportion gardée. On n'investit pas suffisamment pour la qualité spirituelle d'être de nos troupes. Or, l'Église, comme telle, il faut bien s'en rendre compte, se renouvellera d'abord, surtout et toujours, par la qualité d'être spirituelle de son membership. Il nous faut redevenir compétitif et corporatif, si vous me passez ces deux expressions-là. Autrefois, on ne sentait pas le besoin d'être compétitif. On avait un monopole. Mais aujourd'hui, il faut l'être. Puis on ne sait pas comment l'être. Puis même certains croient qu'il ne faudra pas l'être. Bon, alors, c'est commencer la bataille en avouant notre défaite. Jadis, on avait un esprit corporatif peut-être exagéré puis fanatique. Je me rappelle dans le temps, avant le concile, quand on n'aimait pas ça, quelqu'un qui critiquait devant nous autres un autre prêtre, parce qu'on sentait qu'il attaquait notre corporation. Puis il ne fallait pas aller critiquer un religieux ou une religieuse devant quelqu'un de sa congrégation, parce que, oh non, ça ne se pouvait pas qu'un autre membre de sa communauté soit de travers. Il ne fallait jamais aller parler de quelqu'un. On avait un petit instinct corporatif, là, fanatique, exagéré, aveugle. Ben, aujourd'hui, gone with the wind, comme on dit, la solidarité est émoussée. Et puis, les gens ne gênent pas pour classer puis démolir quelqu'un de leur corporation. Bien, il nous faudrait redévelopper ça chez nous si on veut arriver à quelque chose qui vaut la peine. Alors voilà, mes chers amis, la section A de la première partie, où, je pense que vous m'en rendrez témoignage, j'ai mis mes cartes sur table. Je me suis compromis. Passons maintenant à la section B. Toute une série de réflexions pour voir comment le malin s'y prend pour nuire à l'Église, tant sur le plan de sa croissance que sur le plan de son rayonnement. Ça va être une section, je pense, intéressante, originale et inédite. Vous savez, on est un peu naïf, un peu beaucoup, de penser que judoka le fourbe, ça c'est mon l'épithète que j'y donne, judoka dans le sens qui se sert de nos bonnes intentions, de nos élans, de nos enthousiasmes pour capter notre bon côté, notre bon élan, puis là, le fourbe, lui, il nous fait passer tout droit. Puis on va se fracasser sur le mur d'en face. Mais il faudrait être naïf pour croire que judoka le fourbe se contente de laisser passer la parade, puis de regarder l'Église aller, sans essayer de lui nuire. On a les promesses que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Mais peut-on le blâmer de tout essayer pendant qu'il en a encore le temps et la chance? Mais comment s'y prend-il? Comment agit-il au juste? Et ici, je veux partager avec vous un discernement qui a été réparti sur plusieurs années sous forme d'une grâce que le Seigneur a octroyée à Isabelle Gauvin, qui était membre de notre équipe à Pax Vobis, qui est la fondatrice de la fondation Que ton règne vienne. Au cours des années, dans la prière, la réflexion, elle a eu la chance de discerner 10 façons particulières d'action du malin au sein de notre Église. Avant d'entrer dans le détail de cela, je dirais ceci d'abord que dans son discernement, elle a repéré que beaucoup d'initiatives et de secteurs dans notre Église sont spirituellement inodores, incolores, sans saveur sur le plan spirituel et par conséquent nullement menaçants pour le malin. Si peu menaçants que le malin ne se déplace même pas. C'est tellement inoffensif parce que déjà ces secteurs ou ces milieux, ces initiatives sont profanes, sont terre à terre. Ces activités sont mondaines, donc n'apportent rien en fait de valorisation, de sanctification dans notre monde. Sans s'en rendre compte, les gens s'y désarment, mais leurs activités, leurs initiatives constituent des alliés tout trouvés pour celui qui est intéressé à saboter notre Église. Ou ses œuvres ne donnent aucun témoignage, ou donnent hélas un contre-témoignage. Quelles sont les stratégies du malin face à l'Église? Il y a d'abord les stratégies qui viennent de l'extérieur. Et là, il y a des sectes, comme on le sait, il y a des groupes, il y a des forces anti-Église. Et comme ça vient de l'extérieur, les attaques sont plus ouvertes, sont déclarées. On peut les repérer, on peut les percevoir beaucoup mieux. Ça va de la critique à la persécution. Ça commence d'abord par susciter le ridicule sur les croyants, susciter des doutes. On a un petit peu de ça chez nous. Vous savez que c'est de plus en plus difficile pour des gens d'extérioriser leur foi. Ils se font dire par d'autres, « Ah, tu crois encore, toi? Ben voyons donc, c'est démodé. Voyons, l'Église, ben c'est classé, c'est passé, reviens-en, arrive en ville. » Alors, de plus en plus, nos croyants et croyantes actuellement, chez nous, se font taquiner d'abord, puis après ça, ridiculiser, puis parfois snobber, mépriser. Ensuite, quand ça se développe, cette critique, Ça s'en va vers, comme on le sait dans certains pays, vers la dépossession des biens, les obstacles, les soupçons, les interdictions, le refus d'embauchage ou le congédiement parce qu'on est trop croyant. Et finalement, ça arrive, ça existe déjà dans certains pays, à des arrestations, à la suppression des droits, aux tortures ou aux martyrs. Bon, alors ça, l'action du malin face à l'Église, de l'extérieur, on sait déjà, et à travers tous les siècles, on a toute une litanie de tentatives, plus ou moins couronnées de succès, qui viennent sous sa mouvance ou sous son souffle. Mais sa stratégie à l'intérieur de l'Église est beaucoup plus subtile et sournoise. Il a d'abord une stratégie que vous avez diagnostiquée autant que moi, où il s'attaque à des individus. Et par la tentation, il essaie d'affaiblir tel homme ou telle femme d'Église, les entraînant dans le surmenage, problème de mœurs, problème d'alcool même, de drogue, aveuglement et tout cela. Et là, on voit un individu, un homme ou une femme d'Église, tout à coup se replier sur lui-même ou sur elle-même, s'attrister, devenir incapable d'évangéliser, en train de se détruire, se détériorer. Quand c'est diagnostiqué, il y a toujours moyen d'aider un confrère ou une consœur. Mais vis-à-vis l'institution, ce qu'il nous faut comprendre, le malin n'est pas pour arriver puis solliciter l'Église avec la pornographie ou l'alcoolisme ou les mœurs légères. Comme Église et comme institution, on le verrait venir et on ne tomberait pas dans le panneau, on pourrait immédiatement le déceler et le combattre. Et c'est là que Isabelle a pu discerner ce qu'elle a appelé les 10 portes tournantes. Vous savez, l'Église veut être présente au monde. Et alors, on a mis des portes pour que l'Église, le message de l'Église, passe dans le monde. Mais elle a vu que ces portes étaient des portes tournantes et elle a vu comment le monde, par la même porte, rentre dans l'Église. Et il y a 10 endroits où l'Église emprunte ou va porter un message dans le monde, mais l'esprit du monde, par la même porte tournante, vient dans l'Église. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne s'y attend pas, puis parce qu'on prend pour acquis que tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait en Église, étant donné que c'est en principe pour la gloire de Dieu, puis c'est fait par du bon monde qui se délame, on est sûr que tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se pense en Église, c'est du beau, c'est du bon, c'est du vrai. Quand on n'en arrive pas, même à croire que